Bien. Ce matin, je suis très heureux d'être avec vous pour poursuivre notre série sur les proverbes. Notre série « Mieux vivre les secrets des proverbes » qu'on a commencé la semaine dernière avec Pasteur Élise. Attendez-moi que je m'installe un petit peu. Série qu'on a commencé la semaine prochaine et le livre des proverbes, c'est vraiment un livre riche, un livre très pratique, plein de secrets pour nous équiper, nous apprendre à mieux vivre notre vie avec sagesse. Parce qu'on a besoin de sagesse. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent qu'ils ont besoin de sagesse dans la vie? Laissez-moi pas tout seul. Oui. Muriel, elle a assez de sagesse. Je fais des blagues, Muriel. Mais la sagesse, on parle de sagesse. La sagesse, c'est quoi? Simplement, par définition, la sagesse, c'est faire preuve de sûreté dans ses jugements. Quelqu'un qui a du jugement. Faire preuve de sûreté dans sa conduite. C'est quelqu'un qui est prudent, réfléchi, conforme à la mesure ou au bon sens. En bon québécois, avoir de la sagesse, c'est avoir du gros bon sens. C'est bon? Et nous, ce que nous voulons, c'est la sagesse de Dieu. La mesure à laquelle nous voulons nous conformer, c'est la mesure de Dieu. Nous voulons la sagesse de Dieu. Et sûrement que chacun d'entre nous, on s'est fait dire quand on était petit, sois sage, comporte-toi bien. Ou ça, il y avait plusieurs variantes à sois sage. C'est fais pas ceci, sinon il va t'arriver ça. Arrête de faire ça. Et moi, quand j'étais petit, je faisais quelque chose, je sais pas pourquoi. Je sais pas c'était quoi le traumatisme que j'ai vécu dans ma plus tendre enfance, mais j'avais un réflexe de toujours grimper après tout. J'escaladais littéralement, j'escaladais tout. L'église où j'allais quand j'étais enfant, on fonctionnait un peu comme cette église-là, c'est-à-dire qu'on louait un local chaque dimanche, à la différence que c'était pas toujours le même local. Donc je sais pas comment il s'arrangeait niveau logistique, on a déjà de la misère ici. Et j'étais pas conscient de ces enjeux-là à l'époque. Et à chaque fois, à la sortie de l'église, je trouvais l'arbre de la place, puis je montais jusqu'en haut. Et il y avait tout, je me souviens toutes les mamans de l'église qui regardaient, ils voyaient un petit bonhomme de 7 ans qui était à 20 pieds dans les herbes dans un arbre et tout le monde paniquait. Et ma mère était toujours, arrête de faire ça, ça va mal finir. Et ma mère était inquiète, ça n'a pas de sens, je la voyais avec ses gros yeux, elle me voyait en haut de l'arbre. Et quand on te dit « sois sage », t'as deux choix. Et on a vu la semaine dernière, deux chemins à emprunter. T'as le choix entre écouter, puis obéir, puis t'as le choix d'apprendre à la dure. Mais finalement, t'apprends plus ou moins. T'as le choix de faire confiance ou bien d'apprendre à la dure. Et moi, à un moment donné, j'ai continué d'escalader, de grimper, puis à un moment donné, je suis tombé. Je grimpais à une poutre et je me suis cassé le bras. J'ai appris la leçon, je l'ai appris à la dure. Est-ce que je l'ai appris tout de suite après m'être cassé le bras? C'est une autre question. Mais j'ai appris quand même, ça m'a fait être plus prudent. Et le livre des Proverbes est un livre qui nous encourage à être sage, à agir, à vivre, à marcher avec sagesse. C'est un livre que si tu le suis, ça t'évitera d'avoir à apprendre à la dure, de te casser le bras. Ça t'évitera beaucoup de chutes et de détours. Et c'est aussi simple que ça. L'auteur des Proverbes, si vous le lisez, puis je vous encourage, pendant qu'on est dans la thématique, à lire le livre des Proverbes. Nous, on le lit avec notre groupe d'hommes, on fait 5 chapitres par semaine. Et si tu le lis avec nous, tu vas te rendre compte que l'auteur dit tout le temps, écoute, mon fils, écoute. Écoute mon instruction, écoute ce que je te dis. Et là l'auteur, il est comme, ok, il est en train de nous écrire, là, mais je l'imagine, s'il te parlait, là, il serait comme, écoute-moi, c'est bon ce que je dis. La version orale, ce serait ça. C'est comme, c'est du bon stock que je te dis, fais juste m'écouter. Et il le répète tout le long du livre, écoute mes paroles, écoute. Ce matin, je vais vous parler du deuxième pas sur le chemin de la sagesse. La semaine dernière, on voyait que le premier pas, c'était la crainte de Dieu. Alors, je t'invite à écouter le message si tu n'étais pas avec nous. Et le deuxième pas, c'est d'écouter, être enseignable. Être capable de recevoir ce qu'on te dit. Être capable de recevoir les conseils qu'on te donne, les reproches qu'on te fait. Être enseignable. Et on va prier ensemble avant de continuer. Seigneur, on veut être à l'écoute de ta parole. On veut être à l'écoute de ce que tu veux nous enseigner. Apprends-nous à développer cette sagesse. Non pas la sagesse des hommes, mais ta sagesse. Nous croyons que ta parole est la vie. Alors ce matin, viens parler à nos cœurs. Viens nous enseigner et vraiment on veut te connaître davantage, on veut grandir et donne-nous ce cœur ouvert à être enseigné, Jésus. Amen. Amen. Je vous propose de commencer en lisant le Proverbe chapitre 6, les deux versets 20 et 21. Mon fils, reste attaché à mes, au précepte de ton père. Mon fils, reste attaché au précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment sur ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Attache-les comme un collier à ton cou. Lorsque tu arrives à Christ, en fait, tu choisis de donner ta vie à Jésus. Tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Tu demandes pardon pour tes péchés, puis là, tu acceptes Jésus. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nouvelle naissance dit, c'est nouveau, tu es tout frais, tout neuf. Ok ? Mais nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y en avait une ancienne. Et l'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. » Donc, qui dit nouvelle naissance dit, les choses anciennes sont passées, on passe à autre chose. T'es comme, nouvelle naissance dit aussi, ben, naissance, bébé. Et que là, t'as tout à réapprendre. Tu dois réapprendre à marcher selon la nouvelle vie que tu as. Vie chrétienne. C'est toute l'éducation qu'il y a à refaire. Et ce matin, je vous propose de symboliser ça. Quand tu arrives à Christ, en fait, tu arrives avec un collier. On parle d'un collier que tu attaches à ton cou. Et la semaine dernière, un beau collier ici, regardez ça. Beau collier. Je l'offre à quelqu'un à la fin de la réunion, si vous voulez. La semaine dernière, on était dans l'illustration de la randonnée avec le sac à dos. Ce matin, on est un peu plus dans le bling-bling. C'est mon côté gangster qui ressort un peu. Là. On arrive avec un collier, collier de la connaissance. Mais quand tu arrives dans la vie chrétienne, ce collier-là, il est vide. Quand tu arrives dans la vie chrétienne, tu arrives avec un collier vide que tu vas devoir remplir pour grandir en sagesse, en maturité et pour faire des progrès. Parce qu'en passant, chacun de nous sommes appelés à faire des progrès. On est appelés à grandir. On est appelés à maturer, à grandir en sagesse et en connaissance. Et la première étape pour remplir ton collier, c'est premièrement de rechercher l'enseignement. Avoir soif d'être enseigné. Proverbe chapitre 2 dit « Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses pour la trouver comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce que révérait l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. » Il faut que tu cherches. Est-ce qu'il y en a qui ont soif de connaître Dieu davantage? Yes. Soif de connaître Dieu, il faut que tu soupires à apprendre. Il faut que tu aies soif de la parole. Et si tu n'as pas soif, je t'invite à prier pour que Dieu développe ta soif, à être honnête devant Dieu. Que Dieu développe ta soif. Parce que tu as besoin d'apprendre. Tu es appelé à grandir. Et ça, c'est peu importe si ça fait 2 jours que tu es chrétien ou si ça fait 45 ans. Chacun d'entre nous, on a besoin de grandir, on a besoin d'être enseigné. Le proverbe chapitre 1, versets 4 et 5 nous dit « Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. » Donc ok, pour les jeunes, c'est bon, il y a besoin de connaissance. Mais regarde, verset 5 « Que le sage écoute et il enrichira son savoir. Et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. » C'est pour tout le monde. Peu importe où est-ce que tu es rendu, tu as besoin. Tu n'auras jamais fait le tour de Dieu. Tu as besoin d'apprendre, toujours. Et ma prière, c'est que nous ayons cette soif, hein, comme creuser, comme pour chercher un trésor. Vraiment qu'on est prêt à se fatiguer pour connaître Dieu. Cette soif de mieux vivre pour lui aussi. Cette ardeur, cette faim de chercher, de soupirer après l'enseignement. Amen. Et un moyen que Dieu utilise pour nous enseigner, c'est oui, sa parole, mais c'est aussi nous, l'Église. C'est qu'il t'utilise pour enseigner les autres. Le corps de Christ, Dieu s'en sert. On retrouve constamment dans les livres des Proverbes la formule « Mon fils, écoute mes enseignements » ou « Mon fils, retiens mes paroles ». Et quand l'auteur dit « Mon fils », c'est pas nécessairement qu'il s'adresse à son enfant biologique. En fait, c'était souvent ceux qui enseignaient, on appelait ça des maîtres, et c'était une formule qu'ils utilisaient pour parler à leurs disciples. « Mon fils, écoute ». Et ça, c'est le principe de mentor, un peu, si on veut. De mentor de père ou de mère spirituel. Et on a de multiples exemples tout au long de la parole de mentors, de gens qui vont être des pères spirituels, de personnes qui vont investir dans quelqu'un de plus jeune en âge ou plus jeune dans la foi, pour le voir se développer. On a l'exemple de Élie avec Élisée, qui va se déverser en lui. Paul avec Timothée, Jésus avec ses disciples. C'est du mentorat. On a des exemples précis aussi de passages où Dieu nous explique que dans l'Église, le mentorat doit prendre place. On a par exemple dans Tite, le livre de Tite, chapitre 2, versets 3 à 5, « Qu'il en soit de même pour des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien et qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse. » On a l'exemple, c'est un exemple très pratique. Paul dit, c'est Paul qui a écrit Tite. Ouais, la lettre à Tite. J'ai commis un petit doute. Merci de confirmer. Paul dit à l'église, regardez, vous qui êtes plus âgés, plus sages, ben, soyez un exemple, soyez des mères spirituelles pour les femmes plus jeunes. Et lui-même, il va dire encore dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs. Et il n'est pas gêné de dire ça. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Pas juste lui, là, Paul. Il dit, parce que moi, j'imite Christ, fait imitez-moi, vous pouvez le faire. C'est intéressant de voir que on est tous d'accord avec cette notion-là. On a besoin de pères spirituels, on a besoin de mentors. Mais j'ai découvert une statistique en me préparant qui dit que 93% des chefs d'entreprise estiment que le mentorat pourrait les aider. 93% des chefs d'entreprise disent que ce serait bon que j'ai du mentorat pour me développer. Mais seulement 28% en profitent. La réalité, c'est pourquoi, c'est qu'on pense savoir l'affaire. On pense savoir comment faire pour se développer, pour avancer. Les chefs d'entreprise se lancent, puis ils ont souvent on a une idée précise de où on s'en va. Mais lorsqu'on fait appel à quelqu'un qui a de l'expérience, ben, on va plus vite, on va plus loin. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir des modèles ancrés dans la parole, des imitateurs de Christ, des hommes, des femmes de Dieu qui portent de fruits. Pas n'importe qui est à l'église qui réchauffe une chaise, là. Quelqu'un qui porte du fruit. Et on a besoin de ces modèles-là pour avancer. Et Dieu veut nous instruire avec ça. Moi, j'ai l'exemple j'ai une personne dans ma vie, il y a plusieurs années, qui était un mentor. Pendant plusieurs années, ça a été quelqu'un avec qui j'échangeais, quelqu'un que je partageais, puis qui me conseillait beaucoup dans ma marche chrétienne pour avancer avec Dieu. Et j'ai eu beaucoup d'échanges avec lui. Il m'a vraiment enseigné des choses. Il m'a vraiment conseillé dans ma marche. Mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'était un moment assez anodin où on était une gang de gars et on était 5 ou 6 et il y a un des gars qui travaillait et qui faisait de la vidéo. Et il nous montre un projet sur lequel il travaille, c'est un court-métrage d'animation, donc des bonhommes, des dessins animés. Et pour être honnête, ce projet, il était fier de ce projet, mais pour être honnête, tu sais, les dessins n'étaient pas super bien faits, ok? C'était des êtres humains, mais tu sais, pas très bien dessinés, pas des très beaux bonhommes. Mais il nous montre ça, puis là on écoute, on est 5-6 gars, des chrétiens. Et là mon mentor est avec nous aussi. Et on écoute ça, puis il arrive un moment où dans le court-métrage, il y a un des personnages qui fait un rêve, comme un rêve genre un peu psychédélique, érotique. Ok. Puis c'est pas des beaux dessins. C'est pas des beaux dessins, mais là nous on est 5-6 chrétiens qui écoutent ça. Puis là, on est comme, ouais, il n'y a rien là, tu sais, parce que c'est des dessins mal faits. Mais, et puis moi, mon mentor est à côté, puis tu sais, il a rien dit. Mais moi, je l'ai vu juste du coin de l'œil, il a fait ça de même. Il a rien dit, parce que, effectivement, peut-être que ça allait pas chercher personne. Il a juste détourné ses yeux, puis il s'est caché. Cet homme-là, c'était un homme de Dieu. C'était un imitateur de Christ, qui m'enseignait un principe à ce moment-là. Il me parlait pas, mais il m'enseignait un principe. C'était mon mentor, il avait une autorité sur ma vie. Il m'enseignait quelque chose. Il m'enseignait que, peu importe ce qu'on pense de moi, ben, je veux être intransigeant. Je veux laisser aucune chance à un soupçon de péché d'entrer dans ma vie. Parce que je me connais. C'était quelqu'un de sage. Sais-tu pourquoi nous avons besoin de mentors, de pères ou de mères spirituels? Parce que tu pourrais me dire, ouais, mais on a la parole de Dieu, ça nous suffit. Mais on a besoin de mentors. Premièrement parce que, ben, je ne sais pas si tu as vu l'épaisseur de ce livre, c'est long à faire le tour. Et ben, en grandissant aussi, c'est dur de tout comprendre, on a besoin d'enseignants. Mais aussi, pour la simple et bonne raison, tu as besoin de mentors parce que la Bible ne parle pas de films d'animation. La Bible ne parle pas de toutes les choses dans les détails de ce qu'on rencontre aujourd'hui. Et moi, à ce moment-là, si j'avais regardé la Bible, il n'y aurait pas eu d'exemple sur les films d'animation, parce que ça n'existait pas à cette époque-là. Par contre, la Bible parle d'intégrité. Et mon mentor de ce moment-là, ce qu'il m'enseignait, c'est ce qu'allait signifier l'intégrité pour moi aujourd'hui, pour un jeune homme aujourd'hui. J'avais besoin de ça. Tu as besoin de pères spirituels pour se conseiller, pour t'équiper, pour veiller sur toi, mais aussi pour te reprendre par moments. Est-ce que tu as quelqu'un que tu permets, qui a une autorité sur ta vie, puis que tu permets de te corriger des fois? Yes. Proverbe 3, versets 11 et 12 dit « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, en agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Donc, première étape pour remplir ton collier. Rechercher l'enseignement, recherche l'enseignement et soif. Deuxième étape, c'est accepter l'enseignement. Parce que là, tu recherches, puis tu découvres des perles. Fait que tu avances dans la vie chrétienne, puis tu ajoutes des perles à ton collier. C'est super. Waouh, mon collier commence à être étoffé. C'est merveilleux. Tu découvres des paroles de Dieu, tu apprends à toi aussi être un imitateur de Christ. Puis là, tu découvres une perle. Dieu est avec moi. Yes. Méchante perle, ça. Je suis pas seul, Dieu est avec moi. Tu découvres une autre perle. Dieu est fidèle. J'apprends ça, puis je l'intègre à mon collier, je commence à l'expérimenter et je l'ajoute. Amen, Dieu est fidèle. Une autre perle. Je découvre que Dieu est amour, vraiment l'amour véritable. Je l'ajoute. Là, tu ajoutes des perles. Puis va arriver un moment où tu vas découvrir une perle. Une perle qui te plaît un petit peu moins. Dieu est amour, là, je l'aimais bien celle-là. Par contre, Dieu condamne le péché. Péché, ça fait pas. C'est comme. Plate comme mot, là. Fait que là, tu vas essayer de la rentrer, là. Mais on dirait que ça passe moins bien. Ça frotte un petit peu, ok? Tu veux l'intégrer à ton collier de l'enseignement, à tes connaissances. Tu veux marcher avec, mais ça a du mal à rentrer. Ça va chatouiller, ça va frotter un petit peu. Et la perle est là. Et ce qui se passe là, quand tu reçois quelque chose comme ça qui te dérange un peu, ben, tu l'as dans la face. Là. Et là, tu as trois façons possibles de réagir. Tu peux réagir de trois façons. La première façon, c'est que tu peux rejeter l'enseignement. Tu peux juste refuser, dire « Hey, ça n'a pas d'allure », puis là, on va se trouver des excuses. Ça n'a pas d'allure, je suis pas rendu là. Je suis pas encore assez, ça fait pas longtemps que je suis assez chrétien, regarde, laisse-moi une chance, je suis pas rendu là. Une autre façon de refuser, je fais déjà ça, il faudrait encore que je fasse ça. C'est exagéré. Puis là, tu refuses. Et en refusant, en fait, tu estimes que finalement, ton raisonnement est meilleur que soit la parole de Dieu directement ou la personne qui te conseille. Deuxième façon de recevoir l'enseignement. Deuxième façon de recevoir l'enseignement, c'est de le déformer. Parce que tu ne veux pas refuser en brut, là. Tu te sens un petit peu coupable. Fait que là, la stratégie, c'est de le déformer. Proverbe 2, versets 11 et 15 nous dit « La réflexion sera ta sauvegarde. L'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie. » Et des hommes qui tiennent des propos fourbes et dont les chemins sont tortueux. Des fois, on est bon pour se créer des chemins tortueux, pour s'arranger. Puis là, on déforme la perle juste un petit peu, là. Petite affaire. Je sais pas qui c'est qui fait le ménage ici. C'est toi. Puis là, on l'ajoute, parce que ça nous va un petit peu mieux, ok? Je vais pas l'ajouter, parce que mon illustration, sinon, sera biaisée. On est bon pour, des fois, un peu tordre l'enseignement qu'on veut nous donner. Nous, en ce moment, on est en train de faire des rénovations dans notre maison. On est en train de rénover notre chambre, qui est à l'étage. Et notre maison, en fait, c'est une vieille maison qui date de 1850, à peu près, là. Donc, les vieilles maisons comme ça, quand tu essaies de rénover, ben, chez nous, la chambre, là, le plancher, il fait à peu près ça. Il y a un mur qui part comme ça, l'autre qui fait ça, l'autre qui fait ça. Le toit, il fait la vague. Il y a beaucoup de plaisir. Et moi, j'essaye de rénover ça. J'essaye de mettre des feuilles de gyproc 4x8 d'équerre là-dessus. J'ai essayé de corriger. Je vois Alain qui rit de moi parce que... j'essaye de faire fitter ça. J'aurais beau, puis là j'ai corrigé un peu les courbes, j'ai essayé d'ajuster ça, j'ai chimé partout. J'aurais beau être le meilleur des architectes, le meilleur des gars de construction, ma maison sera jamais neuve à la fin de mes rénovations. Si je veux une maison neuve, il faut que je rase la maison et que je recommence. Mais ma maison, je l'accepte comme ça, j'aime ça même, c'est rustique, c'est charmant. Mais lorsque tu es venu à Christ, lorsque je suis venu à Christ, il a fait de moi une nouvelle création. Mais le vieil homme, il n'est pas loin là. Le vieil homme, là, je suis comme un nouveau bébé tout frais, tout prêt à apprendre, mais le vieil homme, il est là encore pas loin là. Mais pour être une nouvelle création, ben, l'ancienne doit être morte. Si je veux une maison neuve, il faut que l'ancienne soit à terre. Laisse faire le comportement d'avant. Laisse faire complètement. C'est mort là. Tu es passé de la mort à la vie. Et lorsque tu tords la parole, tu déformes la parole que tu reçois pour la faire fitter à l'ancienne création, ben en fait, finalement, tu soumets la parole que tu as reçue à ta vie, au lieu de soumettre ta vie à la parole. Laisse-moi te donner quelques exemples. On va se donner quelques exemples de ce que ça signifie déformer l'enseignement que tu reçois. Déformer l'enseignement que tu reçois, c'est quand on te conseille de ne pas fréquenter un bar parce que tu as un problème d'alcool, mais d'y aller tout de même en disant « Dieu sera avec moi ». Oui, Dieu sera avec toi. Mais là, t'en fais une excuse pour en fait justifier ton comportement. Justifier ton comportement qui va te mener, en fait, comme si je reprends les mots de l'auteur des Proverbes, pour justifier un comportement stupide. Tordre l'enseignement, c'est quand on me dit, pour avoir un couple en santé, pour marcher dans la fidélité de Dieu, il faut que tu mettes des bornes dans tes relations avec le sexe opposé. Là, on te conseille ça. Mais là, tu vas dire, non, moi, je mets aucune barrière, parce que Dieu va être avec moi, Dieu va m'aider à résister à la tentation. Oui, Dieu va t'aider à résister à la tentation. Il le dit dans sa parole. Mais là, je suis en train de faire de cette promesse une excuse pour justifier mon comportement qui est insensé. Tordre l'enseignement, c'est on me déconseille d'acheter une nouvelle auto à crédit, mais je vais le faire en disant Dieu va pouvoir. Vous me comprenez? On est bon à se créer des petits chemins et adapter la parole au lieu de soumettre notre vie à la parole de Dieu. Donc on peut soit rejeter l'enseignement, soit le déformer, et la troisième option, c'est de l'accepter. Accepter l'enseignement qu'on reçoit. Proverbe 2, verset 33 nous dit « Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. » Puis là, la perle qu'on n'aimait pas trop, là, on l'accepte. On ajoute des perles belles et entières à notre collier. Et quand tu fais l'expérience d'ajouter ces perles-là, les perles qui chatouillent un petit peu, là, mais quand avec foi et confiance, tu les ajoutes, je te garantis qu'à long terme, tu vas les trouver belles. À long terme, Dieu a quelques coups d'avance par rapport à nous dans nos réflexions. Là. Dieu a quelques coups d'avance. Puis à long terme, tu vas découvrir que ces perles sont magnifiques, que ces perles sont la vie et qu'elles vont t'emmener, comme dit l'auteur, à vivre tranquille sans avoir à redouter le malheur. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose dans ta vie qui est juste une contrainte. Puis tu comprends pas trop le point. Ça arrive des fois. Puis c'est correct. On a appelé à sonder la parole de Dieu, à comprendre, à réfléchir dessus. Mais des fois, tu comprends pas. Et il faut marcher par la foi, avec confiance. Dieu a des coups d'avance. Et à long terme, non seulement tu vas prendre plaisir à cette perle qui actuellement est une contrainte, mais aussi, plus tu le fais, plus tu obéis, plus dans le futur, tu vas avoir fait des expériences avec Dieu. Et ça, c'est magnifique, d'expérimenter que Dieu tient ses promesses. Puis ça, c'est un bagage. Ta foi va être plus forte. Ta foi, ça ne va pas nécessairement être plus facile d'obéir. Pas toujours. Mais en même temps, tu vas avoir emmagasiné de l'expérience de la fidélité de Dieu. Ta capacité à faire confiance à Dieu va être plus grande. Amen. Amen. Je trouve ça bon. Et finalement, troisième étape, t'as ajouté tes perles, hein. t'as accepté la parole de Dieu. Tu conserves l'enseignement. J'en ai quelques-unes pour que ça ressemble à un collier, là. Je vais m'en ajouter. La troisième étape, pour remplir ton collier, en fait, plutôt pour le garder rempli, c'est de conserver l'enseignement. Conserver l'enseignement. Là, j'ai mon collier. OK. Puis là, je vais aller jusqu'au bout de mon illustration. Et je vais me le mettre autour du cou. Arrête ça de même. OK. Là, j'ai mon collier. J'ai mon collier, je me promène avec. Je lance une nouvelle mode assez révolutionnaire. Je me promène avec mon collier. Mettons, si je me mets là, Pierrick, fais-moi une place à côté de toi. Si je m'assis là, hors contexte du message, je m'assis là, puis j'ai mon collier. Tu vas me dire, c'est quoi ton problème là? C'est sûr?
Tu as de bien jolies perles.
Tu as bien de bien jolies perles, merci. Tu vas avancer dans la vie avec ton collier, avec ce que tu as appris sur Dieu. Ça va faire l'illustration. Mais l'enseignement que tu as reçu et que tu as accepté, il va être remis en question par moments. Il va être confronté. Il va y avoir des moments de tentation, des moments de combat, de lutte. Il va y avoir des moments où l'enseignement que tu as accepté va être méprisé par ceux autour de toi. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens que tu crois ça en 2022. Ça n'a pas de sens d'agir comme ça. Il y a des moments où l'enseignement que tu as accepté va être ridiculisé. Mais je vais te confier un secret des proverbes ce matin. On est dans mieux vivre les secrets des proverbes. C'est quand tu as le plus envie d'enlever le collier que tu en as le plus besoin. C'est quand la perle que tu as acceptée, là, elle se réveille à nouveau puis elle te fatigue, c'est là que tu en as le plus besoin. C'est au moment où tu es tenté de laisser tomber la ligne de conduite qu'on t'a enseignée, c'est dans ces moments qu'il faut que tu t'y accroches le plus. Si je reprends l'exemple de ce que j'ai appris de mon mentor qui se cachait les yeux, sûrement que c'est une ligne de conduite que lui avait adoptée dans sa vie, qui laisserait rien, qui serait intransigeant. Et sûrement que ce geste-là, il l'avait déjà fait, tout seul chez lui. Mais là, il était dans une situation où ce geste-là pouvait être ridiculisé. Hein, c'est facile, tu sais, une gang de gars, mais voyons, c'est quoi ton problème? Il n'y a rien là. Mais à ce moment-là, parce qu'il a conservé l'enseignement qu'il avait acquis, qu'il avait assimilé, il a eu un impact sur moi. Ça, je vous parle de ça, ça fait plus de 10 ans. Là. Puis je m'en souviens, ça m'a marqué. Parce qu'il a gardé l'enseignement, parce qu'il l'a conservé, il a eu un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Si on revient au proverbe par lequel on a commencé, « Mon fils, reste attaché au précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment sur ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras. Ils te guideront quand tu voyageras, quand tu seras loin de tes repères habituels, isolé, dans un lieu inconnu. Ils veilleront sur toi dans ton sommeil. Ils s'entretiendront avec toi à ton réveil. Le précepte est une lampe. L'enseignement est une lumière pour toi, mais aussi pour les autres autour de toi. Donc l'enseignement que tu acceptes et que tu conserves, ça va être une lumière, non seulement pour ta vie, mais pour ceux qui sont autour de toi. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Amen. Et j'aimerais terminer avec le proverbe, en vous lisant une partie du proverbe 9. Proverbe 9, versets 1 à 5. Proverbe 9, verset 1 à 5, qui nous dit « La sagesse a bâti une maison, elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare « Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. » Peut-être que ce matin t'es là, puis le collier tu l'as laissé tomber, volontairement ou pas, peut-être que tu l'as échappé. Et que ça fasse longtemps ou pas, tu restes avec ça. Puis il y a comme une culpabilité, tu vis les conséquences de ce mauvais choix, qu'elles soient plus ou moins dramatiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que la sagesse t'invite encore. Il n'est jamais trop tard. La sagesse t'invite encore, mais pas n'importe quelle sagesse. Parce que le texte qu'on vient de lire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça nous fait vraiment ça fait vraiment penser, en fait, à Jésus. La sagesse a bâti une maison. Elle a prêté une bête et préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Et regardez si on lit dans Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 1 à 4, en fait, c'est une parabole que Jésus lui donne. Il dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. On rejette le collier, on rejette la connaissance, l'enseignement, la sagesse. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. L'invitation revient. Jésus insiste. Il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer le jeune taureau et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Jésus te lance à nouveau son invitation ce matin. Peut-être que tu as échappé le collier. Mais l'invitation est renouvelée. L'invitation est renouvelée. Jésus, dans sa grâce, il t'invite de nouveau à partager sa table. Hein, le psaume 23 qui nous dit qu'il dresse une table en face de nos ennemis. La table est dressée pour toi. La table avec le pain et le vin qu'il t'invite à partager. Le corps et le sang de Christ versés pour toi. Jésus a payé la dette. Et que je t'invite à répondre à cette invitation. On a besoin de sagesse, on a besoin d'apprendre à vivre selon le cœur de Dieu. Ce matin, je t'invite à accepter. Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter de revenir, répondre à l'invitation de nouveau? Est-ce qu'il y en a, c'est ton désir ce matin? Il t'invite à nouveau. Peut-être que tu as l'impression d'avoir échoué à plusieurs niveaux, que tu t'es détourné volontairement de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais les bras de Jésus sont toujours ouverts. Les bras de Jésus sont toujours ouverts. Seigneur, on vient à toi ce matin. On veut répondre à ton invitation, Seigneur. Merci parce que, oui, il y a de la sagesse, oui, il y a des choses à apprendre sur toi, mais on n'aura jamais fait le tour. On n'aura jamais fait le tour et des fois on est dépassé, Seigneur, par ces choses-là, Seigneur, mais on sait que tu es un Dieu de grâce. Alors on veut juste se réfugier dans tes bras, Seigneur. Toi qui es la sagesse. Merci parce qu'on a accès à toi, Seigneur. Merci de t'être offert, Seigneur, d'avoir offert ton corps, d'avoir versé ton sang pour nous, Seigneur, d'avoir payé la dette qu'on devait payer. C'était la conséquence de nos mauvais choix, en fait. C'était la conséquence de ce qu'on a fait. Mais toi, tu l'as payé. Et aujourd'hui, on peut revenir, recommencer, une nouvelle vie de nouveau, une nouvelle naissance, Seigneur. Alors Jésus, on veut ce matin vraiment laisser faire ce qui était ancien. Passer à autre chose. Passer à cette nouvelle vie que tu veux nous donner. Jésus, on veut... Seigneur, tu vois notre cœur qui parfois est tiraillé, Seigneur, notre cœur qui a du mal à accepter, à obéir, à accepter ce que tu veux nous enseigner, Jésus. Mais on veut se soumettre à toi. Toi qui es saint et élevé, Seigneur. Tu es tellement au-dessus de nous. Tellement au-dessus de notre compréhension, Seigneur. On veut marcher avec confiance, avec foi, Seigneur Jésus. On veut soumettre notre vie à ta parole, Seigneur. Je te prie pour cette église, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que nous soyons des conseillers les uns pour les autres, Seigneur. Je te prie pour ces relations réelles et profondes, Seigneur, qui continuent de se développer. Merci pour ce que tu fais dans ton église, Seigneur. Merci pour les belles choses que tu produis, Seigneur, les réunions, Seigneur, les échanges, Seigneur. Mais qu'on puisse être cette église, Seigneur, vraie et authentique, Seigneur, où il y a des relations qui se développent, dans lesquelles on peut se confronter. On peut se confronter, on peut se reprendre, on peut se conseiller, Seigneur, s'écouter les uns des autres. Donne-nous des cœurs enseignables, Seigneur. Enseignables à ta parole, Seigneur Jésus. On veut être à ton écoute. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que toujours, toujours tu pardonnes. Toujours tu accueilles. Toujours tes bras sont ouverts, Seigneur. Et ce matin, on revient à toi, Seigneur. Notre désir, c'est de laisser les choses passer derrière nous. Et on revient à toi, Jésus. Prends la place dans nos vies. Prends toute ta place, Seigneur Jésus. Nous sommes à toi. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire Amen à ça avec moi? Amen.